VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 17 décembre 2015.
La représentante américaine à l'ONU, Samantha Power, a exhorté les Nations Unies à se préparer plus activement à agir au Burundi.
Manifestation à Bangui mercredi devant le siège de la MINUSCA pour demander des mesures contre les auteurs d'exactions.
Nous avons voulu des élections parce que nous sommes citoyens, nous avons obtenu les élections. Maintenant nous voulons la paix, intégrer nos kilomètres et nous l'aurons.
Lazare Ndader Kangang, président du collectif 236 km 5.
Multiplication des contestations en Afrique du Sud pour la démission du président Jacob Zuma.
Pékin convoque le chargé d'affaires de l'ambassade américaine pour protester contre la vente d'armes à Taïwan.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit adopter aujourd'hui une résolution visant les sources de financement du groupe État islamique.
Peine de mort en baisse aux États-Unis avec 86% des exécutions dans trois États, Texas, Missouri et Géorgie.
Et avant la Minute Éco et les sports, tout d'abord le journal. La représentante américaine à l'ONU, Samantha Power, a exhorté l'organisation onusienne à se préparer plus activement à agir au Burundi. Et ce, alors que le secrétaire général Ban Ki-moon a annoncé l'envoi de son émissaire dans la région, Bagassi-Koura.
Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas assez de planification d'urgence, a affirmé Samantha Power devant la presse aux Nations Unies. Jugeant la situation au Burundi horrible, elle a rappelé les images de cadavres retrouvés dans les rues, les mains liées et avec des balles dans la tête. Elle a dit craindre le pire. Le Conseil de sécurité a envisagé le mois dernier de déployer des casques bleus au Burundi. La Russie, la Chine et les membres africains du Conseil sont plutôt réticents à cette idée. Ban Ki-moon a annoncé que son émissaire pour le Burundi, Jamal Ben Omar, se rendra sur place dans les prochains jours. Il va s'entretenir avec l'Union africaine, les pays de la région et le gouvernement burundais pour tenter de promouvoir un dialogue crédible et sans exclusive. Depuis le début de la crise, des centaines de personnes ont été tuées et plus de 200 000 Burundais ont fui le pays.
En Centrafrique, des habitants du quartier PK5 à Bangui ont manifesté mercredi devant le siège de la MINUSCA pour demander des mesures plus vigoureuses contre les auteurs des exactions qui mettent à mal la paix et la cohésion sociale. Parmi ces fauteurs de troubles qu'ils indexent figure l'ancien ministre de Michel Dzodja, Abdoulaye Hissène. Félix Yepassi Zembrou a joint le président du collectif 236 km 5. Dieu merci, Lazare Ndjadé.
Après le référendum du dimanche dernier, le kilomètre 5 est dans le calme. Parce que ce que le peuple avait voulu, le peuple l'a obtenu. Nous avons voté, malgré les armes, les roquettes, malgré les calas, nous avons voté. Donc, il y a eu un apaisement de ce côté-là. Mais cette situation nous a permis de voir la réalité en face. C'est que ceux qui sont venus au kilomètre 5, soi-disant pour protéger les habitants du kilomètre 5, ne sont pas les amis de la paix, ce sont plutôt les ennemis de la paix. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la population du kilomètre 5 s'est levée comme un seul homme pour aller manifester devant la MINUSCA et remettre un mémorandum pour que la MINUSCA prenne ses responsabilités pour leur demander de quitter le kilomètre 5 et de nous laisser en paix. Nous ne voulons pas vivre sous des coups de feu, nous voulons vivre en paix.
Le mémorandum de ce matin a-t-il également été remis aux autorités de la transition?
Le mémorandum était destiné à la MINUSCA, pas aux autorités de la transition. Les autorités de la transition qui se font complices dans ce qui nous a dit au kilomètre 5. Il n'y a personne qui vient nous voir. Ils se complices parce que dès qu'ils sont informés de quelque chose, c'est eux qui les tiennent informés. N'est-ce pas, ils tiennent des réunions avec eux? N'est-ce pas, ils leur passent des coups de pile? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au niveau du gouvernement, ils sont complices avec eux. Et nous voulons la paix au kilomètre 5. Nous avons voulu des élections parce que nous sommes citoyens. Nous avons obtenu les élections. Maintenant, nous voulons la paix. Intégrale au kilomètre 5 et nous l'aurons.
C'était Lazare Ndjadé Kangang, président du collectif 236 km 5 en Centrafrique.
Au Nigeria, un garde civil et quatre kamikazes sont morts hier dans un attentat suicide à Mafa, non loin de Maïdougouri, ancien fief de Boko Haram. Arzouma Compaoré nous en dit plus.
Une kamikaze s'est fait exploser non loin du checkpoint et l'armée affirme que les trois autres ont été abattus par les gardes civils. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le modus operandi correspond à celui de Boko Haram. Le mois dernier, 8 personnes ont été tuées à ce même poste de contrôle lorsqu'une femme kamikaze s'est fait exploser au milieu des réfugiés. Depuis quelques mois, l'armée nigériane, aidée par les armées tchadiennes et camerounaises, a regagné du terrain permettant à certains réfugiés de revenir au pays. L'agence de gestion des situations d'urgence, NEMA, a annoncé qu'un millier de réfugiés sont ainsi rentrés du Cameroun en 2 jours et ils ont été accueillis dans le camp de Fufore, dans l'état d'Adamawa. Grâce à l'amélioration de la situation sur le plan sécuritaire, 18 600 réfugiés ont déjà pu revenir au Cameroun depuis le mois d'août et 15 000 autres sont attendus dans les prochaines semaines, selon la NEMA.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la réapparition de l'épidémie d'Ebola au Liberia fin novembre est liée à la persistance du virus chez une personne précédemment guérie de la maladie. John Linden nous en dit plus.
L'OMS, dans son bulletin hebdomadaire, a annoncé hier que les récents cas au Liberia sont le résultat de la résurgence du virus Ebola. D'après Gregory Halt, porte-parole de l'OMS, une personne était tombée malade une première fois, puis a guéri et a ensuite retombé malade une deuxième fois. L'organisation basée à Genève suggère de suivre les personnes guéries en procédant à des analyses de leur fluide corporel pour détecter l'éventuelle présence du virus. Le 4 décembre, les 2 derniers cas connus d'Ebola au Liberia ont été déclarés guéris. Le pays avait été déclaré exempt en mai, mais 7 semaines plus tard, de nouveaux cas ont été recensés. Le Liberia a de nouveau été déclaré exempt le 3 septembre, mais le 20 novembre, un nouveau cas a été confirmé. Le pays devrait à nouveau être déclaré exempt de transmission le 28 décembre, si d'ici là, aucun nouveau cas n'est signalé. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait depuis 2013 près de 11 300 morts sur les quelques 28 600 cas enregistrés, la plupart en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le déclin de la peine de mort se confirme aux États-Unis. 28 personnes ont été exécutées en 2015, le chiffre le plus bas depuis 24 ans. Le point avec Eddie Isango.
Ces nouvelles statistiques rendent plutôt optimistes ceux qui, depuis des années, font campagne pour l'abolition de la peine de mort. Quel que soit l'angle par lequel on considère la sentence capitale en Amérique, force est de constater un déclin, a souligné dans un rapport publié mercredi les DPIC, Centre d'information sur la peine de mort. Ainsi, seulement 6 États américains sur les 31 qui appliquent la peine de mort ont procédé cette année à l'exécution d'un condamné. De 2014 à 2015, le nombre d'exécutions a baissé de 20% et c'est dans 3 États, les Texas 13, les Missouri 16 et la Géorgie 5, compte lieu 86% de ces exécutions. Les condamnations à la peine capitale ont elles aussi connu un net fléchissement en 2015. On en a dénombré au 15 décembre que 49, une chute de 33% par rapport à l'année 2014. Ces chiffres ne sont pas seulement des soubresauts annuels des statistiques, ils reflètent un plus large changement des mentalités sur la peine de mort dans tout le pays, conclut Robert Dunham, le directeur du DPIC. La tendance a été accentuée, il faut le dire, par une pénurie des produits utilisés dans les injections létales. Diverses firmes pharmaceutiques, pour la plupart européennes, refusant d'approvisionner les États-Unis en ces substances mortelles. Il y a eu aussi la suspension de plusieurs exécutions par différents États après les chocs causés par plusieurs exécutions ratées depuis janvier 2014 dans le pays.
La Chine a indiqué aujourd'hui avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Pékin pour protester contre la vente à Taïwan de près de 2 milliards de dollars d'armes par les États-Unis, notifié par Washington au Congrès. Pékin a déclaré que la Chine prendrait les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux, y compris des sanctions contre les groupes impliqués dans la vente d'armes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit adopter aujourd'hui une résolution visant les sources de financement du groupe État islamique. Les ministres des Finances des 15 pays du Conseil se réuniront en milieu d'après-midi. La résolution mise au point par Washington et Moscou demande aux pays d'agir de manière énergique et décisive pour couper les fonds et autres ressources économiques du groupe État islamique, dont le pétrole et le trafic d'antiquités.
Les dirigeants européens vont s'efforcer aujourd'hui à Bruxelles de serrer les rangs face à la crise migratoire d'une ampleur sans précédent. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut agir pour endiguer les flux de migrants, a lancé le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, à la veille du dernier sommet européen de 2015, en exhortant les États membres à se ranger derrière sa proposition d'un corps européen de garde-frontières.
Enfin, le président américain Barack Obama a signé un financement d'urgence pour maintenir le gouvernement américain pleinement opérationnel pendant que le Congrès vote sur un accord final du budget. La mesure signée hier soir garde le gouvernement ouvert jusqu'à mardi, évitant un arrêt partiel cette semaine.
l'actualité en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Anastasie Tudiech.
Le Libéria a rejoint mercredi l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, à l'occasion de la première conférence ministérielle de l'organisation en Afrique à Nairobi au Kenya. Il est particulièrement opportun qu'à cette première conférence en Afrique, nous accueillions un nouveau membre africain, a souligné le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, en promettant de soutenir le Libéria, dont l'adhésion a été approuvée formellement par les ministres de l'organisation. L'Afghanistan devrait rejoindre l'OMC lors d'une cérémonie distincte aujourd'hui, toujours dans le cadre de la conférence de Nairobi qui prend fin demain vendredi. En Afrique du Sud, le tout nouveau ministre des Finances, Pravin Gordhan, a tenté dès sa nomination le 14 décembre dernier, de jouer l'apaisement. Il s'est engagé à une gestion budgétaire saine et à restaurer la confiance des investisseurs. Troisième nommé à ce portefeuille en moins d'une semaine, Pravin Gordhan a toutefois déjà occupé ce poste entre 2009 et 2014. Enfin, le réseau social américain Facebook a annoncé hier un partenariat avec le service de réservation de voitures avec chauffeur, Uber, qui va être intégré à son application de messagerie Messenger. Uber est le tout premier partenaire de Facebook en la matière. Cette alliance entre dans le cadre des tests annoncés par Facebook et vise à ajouter des fonctionnalités de transport à Messenger. Uber est aujourd'hui l'un des acteurs les plus en vue de l'économie partagée, avec une valorisation estimée autour de 50 milliards de dollars. Facebook promet que davantage de pays et davantage de partenaires de transport seront disponibles bientôt.
Merci Anastasie pour cette page économie. À présent, les sports présentés ce matin par Eric Manirakiza. Alors, football en Afrique, la Sierra Leone capitule face à la FIFA.
Le choix était clair. Le pays risquait d'être écarté de toute compétition internationale. Le gouvernement a donc rétabli la Fédération Sierra Leonaise de football, le SELFA, avant la fin de l'ultimatum de la FIFA.
Mondial des clubs au Japon, la finale, c'est dimanche.
Le club argentin de River Plate attend le vainqueur d'aujourd'hui entre le club chinois de Guangzhou Evergrande et le FC Barcelone, champion d'Europe en titre et favori de la compétition. Et de son côté, le TP Mazembe a perdu contre CFA America pour la cinquième place.
Pelé et Zico à la rescousse du football brésilien.
Les deux légendes de la Seleção ont initié un manifeste pour réclamer des changements au sein de la Confédération brésilienne, CBF, et surtout le départ de son président, objet d'une enquête interne à la FIFA pour corruption. José Maria Marin a plaidé non coupable hier devant la Cour fédérale à New York.
Et Michel Platini a boycotté la justice interne de la FIFA.
L'ancien triple ballon d'or refuse d'être le dindon de la farce, dit-il, d'un verdict déjà annoncé dans la presse. En cas de sanction, Michel Platini, en commun accord avec la commission de recours, a la possibilité de saisir directement le tribunal arbitral du sport TAS de Lausanne.
Le redoutable José Mourinho en mauvaise posture.
Exactement, l'avenir de l'entraîneur de Chelsea est incertain et risque de perdre son emploi. Les dirigeants du club londonien devraient agir. Chelsea, le champion d'Angleterre en titre, occupe actuellement la 16e place.
Et enfin, on connaît les qualifiés en demi-finale du Mondial Dames de handball au Danemark.
Les handballeuses néerlandaises ont battu la France 28-25. La Norvège a gagné contre le Monténégro 26-25. La Pologne l'a emporté sur la Russie 21-20. La Roumanie a gagné contre le Danemark 31-30. Aucune équipe africaine n'a dépassé le cap des groupes.
Et quelques résultats des matchs joués cette nuit en NBA. Le championnat de basketball nord-américain, Portland, Oklahoma City, 90-106. Memphis, Chicago, 85-98. Une défaite des Washington Wizards face aux Spurs de San Antonio, 95-114. Une victoire de New Orleans contre Utah Jazz, 104-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Après 2 ans de crise, la Centrafrique attend les résultats du référendum qui devrait être connu demain. Mais au lendemain du scrutin, Noureddine Adam, un chef de l'ex-Séléka, a proclamé l'indépendance d'une république dite de Dar el-Kouti, qui est un ancien sultanat dans le nord du pays. Pour une explication, Idriss Fall a joint Mahmoud Moussa, coordinateur adjoint du FPRC, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique.
La République Dar el-Kouti, c'est l'ancien nom de cette république-là où nous sommes. C'est depuis 1818 que cette république a eu son autonomie par le sultan Rabat et Senussi. À l'époque de Rabat, après Rabat, c'était Senussi. C'est là où ils ont proclamé l'autonomie de cette république.
Et pourquoi la faire renaître maintenant?
Ce gouvernement de transition ne nous a pas laissé le choix de s'entendre avec nos frères centrafricains et trouver une table de dialogue ensemble pour puisse réorganiser cette FACA et faire la partage de ces pouvoirs. Et rester ensemble avec nos frères. On nous laisse seulement à seuls, abandonnés depuis 54 ans, marginalisés, pas d'école, pas de santé. Même le chien de l'Europe vit mieux que nous ici.
Vous pensez que proclamer l'indépendance va changer la situation?
C'est clair. Si même on trouve notre portion qu'on est dedans, et libre, et on est en train de faire arranger notre portion, et on reste tranquille avec ce chrétien qu'on est ici.
Mais vous savez que cette république ne sera reconnue par personne.
Comment ça, reconnue par personne? Les autres républiques sont reconnues par qui aussi? C'est toujours comme ça avant de les reconnaître, c'est le début.
Pourtant, Noureddine Adam était membre de la Séléka. Il était même le numéro 2 quand ils ont pris le pouvoir.
Bien sûr, mais le pouvoir de Séléka, ça a duré que 9 mois. Et sur ces 9 mois, est-ce qu'on nous a laissé le temps de travailler? Malgré les 9 mois, on a fait nos efforts.
Et vous pensez pouvoir construire un État que vous n'avez pas réussi à construire en 9 mois à Bangui?
Écoutez, en 9 mois, ce qu'on a fait, c'est plus que ce qu'ils ont fait avant nous 10 ans. Ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, nous avons fait en 9 mois, nous avons fait beaucoup que mieux que ce qu'ils ont fait 10 ans. Mais on ne nous a pas fait continuer.
Vous comptez former un gouvernement, vous aurez votre capital où? Parce que même les drapeaux que vous aviez plantés en Ndélé, les casques bleus les ont enlevés tout de suite.
Écoutez, le casque, ça c'est leur droit, ça c'est leur travail. Eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont venus pour la République centrafricaine. Ils ne sont pas venus pour un État qu'on vient de proclamer. C'est par après qu'on va voir ce qu'on va faire.
Il y aura donc des affrontements avec la force onusienne alors?
Nous ne partageons pas un terre avec la force onusienne. C'est avec nos frères centrafricains qu'on est en train de partager nos terres. Ça, c'est nos terres à nous. Nous ne voulons pas la guerre si on veut la guerre. 5000 hommes, on peut bien se battre, mais on n'a pas voulu ça. On ne veut pas verser le sang des centrafricains. C'est pourquoi on veut diviser, on va rester de notre côté, ils vont rester de leur côté. C'est nos frères. Ce n'est pas nos frères qu'on a trouvé des problèmes avec eux. C'est le gouvernement qui nous a amenés dans tous ces problèmes.
Mais Noureddine Adam ne peut pas voyager parce qu'il subit des sanctions de l'ONU.
Il n'est pas la seule personne qui est dans la République de Dar el-Kouti. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont là. Pourquoi viser seulement Noureddine Adam? Parce qu'il est le chef.
Quand est-ce que vous allez former ce gouvernement donc?
Pour l'instant, je vous ai dit qu'on n'a pas encore fait un AG qu'on va voir avec nos frères centrafricains.
C'était Mahmoud Moussa, numéro 2 du FPRC en Centrafrique.
Jacques Aristide avec vous, un Washington Forum en 2 temps ce jeudi. La Centrafrique d'abord. Après un référendum constitutionnel dans la violence, la RCA est-elle prête pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre? Le Burundi ensuite, après l'attaque contre 3 camps militaires qui a mené à l'opération de nettoyage du régime de Bujumbura, le Burundi est-il réduit à une répression aveugle et sanglante? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En Afrique du Sud, les manifestations se multiplient pour demander la démission du président Jacob Zuma. Les protestataires accusent le chef de l'État de mettre en péril l'économie pour servir ses intérêts personnels. La récente valse de ministres à la tête du ministère des Finances semble avoir été la proverbiale goutte ayant fait déborder le vase. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Je pense qu'il y a un malaise qui est très profond et qui touche l'ANC, aussi beaucoup de chefs de l'ANC, beaucoup des organismes régionaux de l'ANC, même locaux, ainsi que les partenaires dans l'Alliance, dans la coalition, le Parti communiste, la Fédération des syndicats. Et cette malaise vient de se cristalliser autour de la tendance de Zuma dans les derniers 2 ans de prendre des décisions solitaires. Il n'y a que quelques mois où on a su qu'il a décidé de s'acheter un nouveau avion Boeing 777 pour un coût de à peu près 40 millions de dollars, ce qui est beaucoup d'argent en Afrique du Sud. Et ce n'est pas qu'il lui manque des avions et des moyens de transport, simplement un peu une obsession de vouloir avoir un avion aussi grand que l'avion du président des États-Unis ou du roi de l'Arabie Saoudite. Et voilà une exagération terrible pour un pays où il y a encore 40% des adultes qui n'ont pas un emploi formel et où il y a à peu près moitié de la population qui vit dans la pauvreté absolue.
De nombreux manifestants réclament le départ du président Zuma. Quelles sont les chances qu'ils obtiennent satisfaction?
L'Afrique du Sud, et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, l'Afrique du Sud a continué la tradition constitutionnelle britannique. Le président Zuma est en effet un premier ministre. Il est élu par le Parlement et la majorité simple de l'Assemblée, du Parlement, peut aussi le substituer. Ce n'est pas un président élu directement par le peuple. Ainsi, le Parlement, c'est-à-dire la majorité dans le Parlement, le parti ANC, a le pouvoir de le remplacer. C'est ainsi que le président Thabo Mbeki est parti, quand il a compris qu'il n'avait plus de majorité dans l'Assemblée nationale et quand il a compris que son parti allait même appuyer un vote pour sa substitution, c'est alors qu'il s'est démissionné. Si ce signal parvient à Zuma, oui, là aussi, il n'aurait peut-être pas d'autre chance que de se démissionner. Il y a un encouragement aussi constitutionnel. Le président en Afrique du Sud, s'il est remplacé, perd ses privilèges. Le président qui part de sa propre volonté, qui se démissionne, ne perd pas le privilège. Il sera bien tenu pour le reste de sa vie.
C'était le professeur André Thomashausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. À court de moyens pour empêcher le piratage de leurs œuvres, les musiciens de Bamako font appel au téléchargeur, appellation familière donnée aux jeunes installés le long des rues qui, pour une bouchée de pain, fournissent les fichiers des morceaux musicaux à la mode. Voici un reportage de notre envoyée spéciale à Bamako, Katharina Oiji, présenté par Lionel Gaïma.
Lorsque Sidiki Diabaté, fils du célèbre maître de la kora Toumani Diabaté, a voulu promouvoir son dernier album, il ne s'est pas dérangé à contacter la radio ou la télé, mais il a plutôt envoyé son manager chez les téléchargeurs de la rue Fankele Diara.
C'est bon. Ça, c'est bon.
Penchés sur leurs ordinateurs portables, ces jeunes gens transfèrent de la musique à des téléphones portables ou à des clés USB contre la modique somme de 25 francs CFA par morceau. Sidiki est l'artiste le plus demandé. Aux heures creuses, la musique de Sidiki Diabaté peut facilement attirer des dizaines de clients. Le téléchargeur Aldouseini Balo explique.
Ouais, bon, ils savent bien que vraiment ici, c'est comme un carrefour. C'est l'endroit où les gens se rencontrent. Donc, c'est facile aussi de trouver son son pour distribuer ça à la population. Parce qu'il veut que son nom se lance. Il se connaît sur le plan national, soit le plan international même. Donc, c'est là qu'il fait ça.
Les fréquents délestages et une connexion Internet intermittente se sont combinés pour créer un créneau pour les jeunes mordus de la technologie, comme Aboubakar Koulibaly.
Bon, ça dit, les chansons qui sont en mode, on sait. On connaît les chansons qui font bouger la jeunesse. On sait. Oh, j'ai même vendu quelques exemplaires. Hein, parce que quand les gens viennent chez moi, ils me demandent il y a quelle nouveauté. Bon, je dis il y a ça, il y a ça.
Le rap malien est la musique la plus demandée par les clients.
Oh, il y a Dafu. Il y a Van Bakou.
L'Internet pousse l'industrie musicale africaine vers de nouveaux horizons, transformant les compagnies de téléphonie mobile en nouveaux labels musicaux. C'est ainsi que le rappeur malien Milmon a récemment signé un accord lucratif avec la compagnie Orange Mali. Ces nouvelles compositions sont exclusivement vendues par cette compagnie, payables à travers le système de transfert de fonds Orange Money. Tous les artistes ne sont pas contents de voir les téléchargeurs vendre leurs œuvres en bordure de rue, surtout que ces derniers gardent les profits pour eux-mêmes. De nouveau, le téléchargeur Aboubacar Koulibaly.
Bon, même si ce n'est pas moi, ils savent que la musique quand même, ça est sur le net quand même, tout le monde peut la voir.
Pour sa part, la Fédération malienne rencontre d'énormes difficultés dans la lutte contre le piratage. Du coup, les musiciens recourent à l'animation de mariages, quelques rares concerts et, pour quelques chanceux, des tournées internationales afin de joindre les deux bouts.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Après des mois de spéculation, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États-Unis a annoncé le premier relèvement de ses taux à 0% depuis 10 ans, ce qui marque le début du retrait du soutien de l'économie. Le taux directeur de la Fed se situe maintenant entre 0,25 et 0,50%. Le comité prévoit une augmentation graduelle atteignant 1,4%. D'ici fin 2016. Quel sera l'impact de cette mesure dans l'avenir? Chérubin Dorcil a posé la question à l'économiste Michael Kivane, qui commence par souligner l'importance de l'annonce.
C'est très important parce que depuis 10 ans, après la crise économique de 2008-2009, la Banque centrale des États-Unis, ce que nous appelons la Fed, la Federal Reserve, a diminué le taux d'intérêt à presque zéro pour donner une chance à l'économie américaine de retourner à un taux de croissance et aussi de laisser le marché de l'immobilier sortir de la crise de la récession de 2008-2009.
Ça veut dire qu'il est plus facile pour les gens d'acheter une maison, par exemple, quand le taux est aussi bas, parce qu'ils n'auront pas à assumer une hypothèque très élevée.
Bien sûr, c'est ça.
Donc si on veut s'acheter une voiture, une nouvelle maison, il faudrait peut-être essayer de le faire avant fin 2016.
Mais vous savez, c'est pas si facile, hein, parce que le taux d'intérêt qui va augmenter un peu va aussi jouer sur les prix. Donc les prix des maisons peuvent diminuer un petit peu à cause du relèvement du taux d'intérêt.
Quels sont les secteurs qui vont être affectés immédiatement par cette décision de la Fed, professeur Kivane?
Ce taux d'intérêt interbancaire va affecter tous les autres taux d'intérêt du marché financier, tels comme on vient de dire le taux des hypothèques des maisons, les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Et ça va aussi affecter les taux d'intérêt un peu dans le monde entier, donc surtout les pays en voie de développement. Peut-être eux aussi vont connaître une augmentation de leur taux d'intérêt, les gouvernements qui vont aller au marché international pour emprunter. Eux aussi vont connaître une augmentation du taux d'intérêt.
Professeur Michael Kivane, ceux qui ne sont pas d'accord avec la Fed diront peut-être, mais est-ce que l'état actuel de l'économie américaine, le chômage, le marché de l'emploi, est-ce que cela justifie la décision de la Réserve fédérale?
Voilà, c'est ça ce que les critiques disent. Le taux de chômage est très réduit. Maintenant, c'est à peu près 5%. Mais eux, ils pensent qu'il y a toute une réserve des gens qui sont sortis du marché de l'emploi, qui attendent des bonnes conditions pour retourner. Pour ces critiques, ils pensent que ce n'est pas le moment. Il faut attendre une croissance très, très robuste. Maintenant, le taux de croissance de l'économie est un peu 2,5%. Pour eux, ils aimeraient attendre que ça soit à 4 ou 5%.
Voilà. Je vous remercie beaucoup, Michael Kivane. Je rappelle que vous êtes un économiste et que vous enseignez à l'Université Santa Clara en Californie.
Et vous pouvez suivre l'entretien intégral de l'économiste Michael Kivane sur voaafrique.com. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Et avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon jeudi à toutes et à tous.